debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Le monde de femmes esclaves, méprisons nos entraves. Tabou, tabou.
Bonjour et bienvenue à cette émission du collectif Debout, collectif féministe, nancéien et mixte. Donc moi c'est Sarah,
Angélique,
Michel,
Alison
et Katia.
Et donc nous sommes réunis toutes les cinq aujourd'hui pour vous parler d'une thématique qui a été beaucoup abordée dans l'actualité ces derniers temps. Et donc il s'agit de la prostitution. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup été en débat, principalement autour de la proposition de pénaliser les achats d'actes sexuels, donc de pénaliser les clientes de prostituées. Donc pour commencer, c'est peut-être intéressant de sortir une petite définition de ce qu'est la prostitution pour savoir de quoi on parle. Donc, c'est l'acte prostitutionnel. On parle d'une relation sociale entre un client et une personne en situation de prostitution. Donc, une relation basée sur l'argent. Donc, le client achète une prestation sexuelle. Et le client et la personne définissent en avant le prix pour les prestations qui sont sexuelles, qui sont envisagées. Alors, prestation sexuelle, c'est pas forcément très clair. Donc, je vais le définir aussi. Donc c'est en fait la personne en situation de prostitution qui va mettre en scène un scénario adapté aux souhaits et aux désirs sexuels du client. Et lui, il va acheter pour un certain temps et sous certaines limites le droit d'accès au corps de la personne en situation de prostitution. Donc il s'agit de la prostitution, on parle d'une prestation parce qu'elle fait l'objet d'une logique d'échange capitaliste. Voilà, donc là, sur la définition qui est notée, il est noté aussi le risque d'une aliénation de tâches de travail. Et il est noté que la femme en situation de prostitution accepte donc les prestations sexuelles pour de l'argent. Et ses désirs et souhaits sexuels sont donc détachés de la situation, vu qu'il s'agit d'un échange marchand, entre guillemets. Voilà, pour mettre un petit peu les bases de ce dont on va parler aujourd'hui. On peut préciser que quand on parle de prostitution, on a l'impression qu'on parle uniquement de prostituées qui vont être dans la rue. Il y a plein de situations de prostitution. On peut citer des choses dont on a pu entendre parler dans les médias, donc des hommes qui proposaient une location de logement en échange de services, entre guillemets, sexuels. On peut parler des personnes qui ont un camion, hein, des personnes en situation de prostitution qui vont exercer assez à l'écart dans un camion, voire chez elles. Il y a des personnes qui vont faire ça de façon ponctuelle en fin de mois, d'autres de façon plus régulière, d'autres liées à un métier qui va être un peu, on va dire, à la limite, comme les hôtesses de bar à hôtesses ou les escort girls, où ça peut tomber vers de la prostitution. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez large. Alors, concernant la prostitution en France, qu'on peut dire au niveau législatif, avant d'approfondir vraiment les choses, c'est que les maisons closes sont fermées depuis 1946. Mais la prostitution n'est pas sanctionnée par la loi. Par contre, le proxénétisme est sanctionné par la loi. C'est le cas aussi du racolage, donc passif et actif. Hein, le racolage passif est à nouveau sanctionné par la loi depuis 2003. Et puis, louer un lieu pour se prostituer, c'est aussi sanctionné par la loi. Donc voilà le cadre, en gros, législatif en France. On va approfondir le cadre législatif dans d'autres pays ensuite, avec des exemples qui peuvent être intéressants. Donc sur la France, ce qu'on peut préciser, c'est quand même que la France a une position abolitionniste de la prostitution. Elle se déclare abolitionniste en tant que pays. Elle a réaffirmé cette position en 2011. Et puis, il y a eu quand même des actualités récentes où l'Assemblée nationale a voté donc une proposition de loi dans laquelle il y avait différents éléments, dont la pénalisation de tout achat d'un acte sexuel. Toutefois, il faut bien préciser que le Sénat a rejeté cette partie de la proposition de loi. Hein, voilà, donc pour dire de façon générale ce cadre. On a voulu approfondir le cadre législatif ailleurs, plus particulièrement en Allemagne, où c'est très très différent. Et du coup, ça permet de voir une autre façon de gérer la prostitution dans un pays.
Voilà, alors... Je vais vous présenter deux pays qui se ressemblent politiquement énormément au premier regard. Mais ce qui est curieux, ces deux pays ont des manières de gérer la prostitution complètement différentes. Alors il s'agit de la Suède et l'Allemagne. En Suède, il y a depuis le 1er janvier 1999 la loi d'interdiction d'achat des prestations sexuelles. Ce qui veut dire de plus ou moins que la prostitution est interdite. Et en Allemagne, depuis 2002, l'Allemagne a de plus ou moins renforcé la légalisation de la prostitution. Il faut dire avec quand même que la loi a renforcé, il ne s'agit pas que de la légalisation de la prostitution, la loi a renforcé également les droits des personnes qui se prostituent. Alors, j'ai envie de parler sur cet exemple de ces deux pays, parce qu'ils ont quand même des manières de gérer la prostitution vraiment opposées. Et ce qui est curieux, c'est que les motivations des deux lois, en Allemagne comme en Suède, ont été de lutter contre des discriminations aux femmes. Les deux lois ont été également, ce qu'ils ont également en commun, c'est que c'était la gauche dans chaque pays qui a poussé à ratifier les lois. Voilà, qui est vraiment curieux. En Allemagne, le but des lois, c'est d'améliorer les conditions de travail des personnes qui se prostituent et qu'ils ont accès au système social. Alors, depuis 2002, depuis la nouvelle loi sur la prostitution, il y a une nouvelle notion juridique sur la prostitution. Aujourd'hui, les tribunaux reconnaissent que la vente de prestations sexuelles est un acte commercial qui est légal. Avant 2002, ça n'a pas été le cas. Le terme juridique « sittenwidrig » a empêché celui-là. Alors, « sittenwidrig » veut dire « contraire aux bonnes mœurs ». Et c'est exactement ce terme juridique où la gauche, elle s'est beaucoup, beaucoup dérangée. Parce que la position de la gauche, c'est que l'État n'a pas s'est mélangé dans les libres choix des styles de vie. Et la gauche a considéré que la prostitution peut être un libre choix des vies. Alors, les jugements, c'est une vitrine, ça veut dire les jugements de la prostitution comme contraire aux bonnes mœurs, a eu comme conséquence que tout contrat de vente entre client et la personne qui se prostitue n'ont pas eu une valeur juridique. La personne en situation de prostitution avait donc jamais une prétention fondée en droit sur le paiement de ses prestations. Voilà, et... Les personnes qui se prostituent n'avaient légalement non plus le droit de se auto-organiser parce que les codes d'instruction pénale interdisaient toute promotion de la prostitution. Les institutions, alors si je parle des institutions, je veux dire la police, les communes, les tribunaux, avaient une libre interprétation de ce que veut dire une promotion de la prostitution. Les institutions avaient donc le libre choix de tolérer ou d'interdire des bordels et des personnes qui se prostituent sur leur territoire. Une promotion de la prostitution pouvait être également la distribution associative des préservatifs aux personnes qui se prostituent. Pour des associations et des travailleurs sociaux, il était donc difficile d'aider et d'intervenir auprès des personnes qui se prostituent. Avec la nouvelle loi de 2002, le terme juridique contraire aux bonnes mœurs a été supprimé. Et c'était vraiment ça que la gauche a voulu. À présent, les tribunaux reconnaissent que l'acte de la prostitution peut être un acte commercial. Dans l'histoire allemande, c'est la première fois que la prostitution est reconnue comme un métier. Et je crois aussi que c'est le seul pays en Europe où la prostitution est considérée comme un métier. Peut-être aussi en Pays-Bas, il me semble, c'est pareil. Avant 2002, les personnes en situation de prostitution n'ont pas été poursuivies pénalement, mais elles n'avaient pas que peu de droits. Pour les personnes qui se prostituent, l'accès est ouvert au système social, les caisses maladie et les retraites aujourd'hui. Et c'est vraiment ça que la gauche a voulu, où ils se sont battus contre les discriminations aux femmes, disaient la prostitution peut être un travail. Et alors ces femmes-là, ils ont besoin d'aide et améliorer leurs conditions de vie, c'est qu'ils ont accès au système social. Et alors en Suède, pour revenir à la Suède, c'est complètement différent. Déjà, il y a proxénétisme, il y a une définition qui est très très étroite. Alors, proxénétisme, on n'a pas besoin qu'il y ait la force ou la violence. Proxénétisme, ça peut être aussi déjà des personnes qui soutiennent activement une personne de se prostituer. Alors, à tout à l'heure, j'ai nommé un exemple, par exemple, des travailleurs sociaux qui veulent aider aux femmes prostituées. Ça peut être, par exemple, en Allemagne, c'est possible aujourd'hui, de distribuer des préservatifs. Voilà, pour que les prostituées se protègent. En Suède, par contre, ça ne sera pas possible parce que ça peut être compté comme proxénétisme, une aide active à la prostitution, ce qui est une grande différence entre l'Allemagne et la Suède. C'est pareil, les locations des lieux où ce que je trouvais choquant, ce que je lisais, c'est même vivre ensemble avec une prostituée, c'est considéré comme proxénétisme si on vit de des ressources de la personne qui se prostituait. Alors, ce que se passe, voilà, vu que la définition du proxénétisme en Suède est très, très étroite, ça veut dire aussi que, voilà, il y a une pénalisation des clients ou des personnes qui vivent ensemble et qui soutiennent d'une certaine manière la prostitution. Et voilà, une pénalisation, ça veut dire prison ou une amende, qui sont très, très importants. Et alors, ce qui est différent, en fait, la gauche en Suède, ils ont dit que la prostitution en soi, c'est une violence contre les femmes. Que si on légalise la prostitution, disent voilà, la gauche en Suède, c'est donner aux hommes les droits d'acheter une femme. Et que ça, c'est quelque chose que l'État ne pourra pas accepter. Contrairement aussi en Allemagne, les Allemands, ils veulent que l'État ne se mélange pas dans les styles de vie. En Suède, ils disent l'État, il doit créer des normes sociales pour l'égalité entre hommes et femmes. Ça veut dire qu'il promeut les normes sociales. Et du coup, c'est son rôle de créer des normes aussi pour que ça rentre en tête que l'égalité entre hommes et femmes sont très, très importants. Voilà, alors du coup, ça sont les très, très grandes différences entre ces deux pays-là. J'ai envie de finir sur quelque chose que j'aime beaucoup. Dans la législation, bon, c'est moi personnellement qui j'aime beaucoup à la législation suède, et ils ont inclus une analyse structurelle de la société. Et sur la gestion de la prostitution, ils ont inclus une analyse structurelle de la société. Et ils ont dit aussi que la prostitution, il faut inclure dans la notion de la prostitution les pouvoirs, comment sont distribués les pouvoirs à la société, et que les pouvoirs de la société sont quand même plus aux hommes que chez les femmes. Et les prostituées sont des personnes très, très, souvent très, très faibles, de situations très, très difficiles, et qu'il faut soutenir ça en disant, voilà, créer des normes sociétaires en interdisant l'achat des prestations sexuelles.
On voit vraiment deux positions, deux législations très opposées.
Je vais juste ajouter encore un truc, parce que ça, là, je parlais que sur la prostitution. Le proxénétisme et aussi la traite des êtres humains, c'est dans les deux pays interdits et poursuivis. voilà, poursuivis pénalement. Ça, je pense que c'est quand même important d'ajouter. Si on parle de prostitution, aussi les lois de prostitution en Allemagne, ils comptent que pour des femmes qui, voilà, de plus ou moins, entre guillemets, se prostituent volontairement.
D'accord, oui, c'est effectivement très important de l'ajouter. Donc, c'est deux réponses législatives différentes et je pense qu'on va revenir sur le contenu et ces choix législatifs, pourquoi ces choix, quelles possibilités au niveau législatif et quelle prise de position par rapport à la prostitution. Je voulais juste signaler que la France aussi, comme la Suède, compte que la prostitution fait partie des violences faites aux femmes et que lutter contre le système prostitutionnel, ça fait partie effectivement du travail pour l'égalité hommes-femmes. On a une position un peu similaire en France, en fait. Voilà, on va faire une petite pause musicale avant de reprendre notre émission.
Alors moi, je vais vous lire un témoignage sur l'exclusion sociale dont font l'objet les prostituées. Elle s'appelle Agathe. Elle a commencé à se prostituer à 20 ans. Plusieurs années après, elle a pu arrêter, mais à quel prix ? Donc voilà, je vous livre l'histoire d'une vie par elle-même. Voilà comment elle commence. Elle dit « J'ai commencé il y a 20 ans dans un bar cher, avec une clientèle de médecins, de profs, mais aussi de curés en soutane et un homme politique connu. J'ai aussi travaillé dans un bar avec monsieur Tout-le-Monde, des commerçants, des agriculteurs. C'était en Belgique, les clients pouvaient monter pour une bouteille. Dans les bars, je voyais 95% d'hommes mariés. Après les bars, j'ai travaillé chez moi à domicile. Les clients m'ont suivi. Ce que je voulais, c'était en faire des habitués. Je vivais alors dans une résidence avec un concierge. Il fallait que ce soit discret. Je n'étais pas trop exigeante, je travaillais juste pour assurer un petit salaire, pour m'acheter des fringues et payer l'électricité, le loyer et le téléphone. Je ne buvais pas, j'étais normale. Je voyais beaucoup d'hommes âgés à partir de 55 ans. Ils sont plus discrets, il n'y a pas de tapage. Je préférais gagner un peu, mais ne pas prendre de risques. Je ne voyais que l'argent. On sait parfaitement que ces hommes ne nous feraient pas entrer dans leur vie. Pour eux, on est la prostituée. Ils nous rejettent s'ils nous voient dans la rue. C'est quelque chose que l'on vit tristement. Certains pensent qu'on est des bêtes de sexe. En réalité, les hommes, on ne les touche même pas. L'odeur, la peau, j'occultais tout ça pour ne voir que l'argent. Je mettais des barrières pour ne pas voir, ne pas sentir leurs dents, leur transpiration, leur haleine. Je posais à peine le bout de mes doigts sur les épaules. C'est fou. On simule et certains sont persuadés qu'ils nous donnent du plaisir. Ils ne connaissent rien aux femmes, rien au corps des femmes. Souvent, je mettais des films porno pour que ça aille plus vite. Je crée une ambiance sombre, genre bar. Mais c'était surtout pour ne pas les voir, pour ne pas voir leur regard. Ces hommes, ils mentaient. Et moi aussi, je mentais. Toujours le sourire. Jamais je ne leur aurais confié mes problèmes. Tout ça, c'est vraiment un marché de voleurs. Comme je riais tout le temps et que je ne montrais pas mes problèmes, certains me disaient « Tu es heureuse, toi, tu as de la chance. » Ceux que je connaissais bien, je leur disais qu'ils étaient culottés, que je les remettais à leur place. Je leur expliquais que ce que je faisais, c'était de la survie. On m'aurait offert un bon boulot, évidemment je l'aurais pris, même pour moins que ce que je gagnais. Mais je n'avais pas de CV, pas d'expérience professionnelle, rien. Ce n'est pas un métier, ça ne peut pas devenir un métier, et en plus, on est toujours rattrapé par le passé. On a peur que quelqu'un nous présente des gens, ou peur de rencontrer d'anciens clients. On est exclu de la société. Quand je pense à ces prostituées, tués, qui viennent nous dire à la télé que c'est un métier comme un autre. Pour les gens, la prostituée n'a pas de cerveau. On nous prend pour des pauvres filles, on rit sous cape. Et ce qui me dégoûte, c'est tous ces gens qui sont pour la prostitution, à condition que ce soit pour les autres. Quand on est invité quelque part, on vous demande « Et vous, vous êtes dans quoi ?» Ça, c'est affreux. Qu'est-ce qu'on peut répondre ? Qu'on est au chômage. La conversation s'arrête là. On ne peut rien dire de plus. Les gens sentent bien qu'il y a quelque chose. Maintenant, j'ai l'APL, je fais des ménages, j'ai des souvenirs d'enfance, on squattait un grenier, on était pauvres, je n'avais pas de père et ma mère avait des amants. Dans ces moments-là, elle m'emmenait chez un voisin. J'ai des flashs, je me souviens d'attouchements. Je sais que j'étais l'enjeu de quelque chose, mais on ne parlait pas de tout ça à l'époque. Ces souvenirs ne me sont revenus que depuis une dizaine d'années. J'en veux à ma mère. Je pense que c'est à cause d'elle que j'en suis arrivée là. Finalement, c'est mon concierge qui m'a dénoncé au voisin. Depuis que j'ai arrêté, je suis libérée. Maintenant, si on me pose des questions, je dis que j'ai eu un ami et qu'il est décédé. C'est un peu vrai. J'en avais un qui m'aidait financièrement et qui me permettait de faire moins de clients. Il savait, il acceptait, il n'en parlait jamais. Les gens croyaient que j'étais entretenue, mais entretenue, ça passe toujours mieux que prostituée. Voilà, je livre à votre réflexion, à votre ressenti, le témoignage de cette femme qui est passée par des phases assez complexes et difficiles pour elle.
C'est un témoignage donc trouvé sur Internet, sur un site spécifique, prostitutionetsociete.fr. Voilà. Dans la série témoignages, on a interviewé un travailleur social qui travaille auprès de prostituées donc sur Nancy pour l'association Antigone, qui est une association qui dépend de l'ARS. Nous vous mettrons ses coordonnées sur notre site internet. Et nous vous laissons donc écouter cette interview de Vincent Corrier, travailleur social chez Antigone.
Pouvez-vous nous présenter donc l'association que vous représentez actuellement, donc Antigone, et le travail que vous réalisez au sein de cette association?
D'accord. Donc le service Antigone dépend de l'association ARS. Il existe depuis une vingtaine d'années et donc nous sommes un assistant social, une éducatrice spécialisée et une infirmière à mi-temps avec un responsable. Notre cœur de métier, c'est d'aller à la rencontre des personnes qui se prostituent notamment dans la rue, même si on commence maintenant à faire un travail sur Internet. Donc pour les inviter, leur proposer un accompagnement social et à la santé. Voilà. Donc ça se fait par le biais notamment de sorties de nuit hebdomadaires dans un camion aménagé. On va à leur rencontre, on leur propose des préservatifs, de boire un café et on leur explique à ce moment-là toutes les missions qu'on peut faire pour elles ou eux. Il s'agit de faire, par exemple, des tests sanguins, gynéco, des dépistages, par exemple, concernant la tuberculose, mais aussi des choses toutes simples, si elles ont des problèmes de santé, ça peut être des orientations et de l'accompagnement physique vers les professionnels de santé classiques, type médecins traitants, hôpitaux, voilà. Donc c'est une grosse partie de notre travail, c'est donc la santé et aussi une partie importante sur les questions administratives de droit d'accès aux soins, donc faire les aider à accéder à la CMU, à l'AME, l'aide médicale d'État, et puis tout ce qui concerne les demandes d'asile, des recours, voilà, un petit peu de juridique aussi. Et on a une partie prévention aussi, notamment sur la contraception, sur les questions autour du cycle de la femme, puisqu'un certain nombre d'entre elles ne comprennent pas forcément comment fonctionne leur corps aussi. On est aussi en lien avec un réseau qui s'appelle Accès. Donc c'est le diminutif de accueil sécurisant, c'est-à-dire que quand des personnes dénoncent leur réseau de proxénètes, par exemple à Nancy, nous, pour assurer leur sécurité, on les oriente vers d'autres partenaires de ce réseau dans d'autres villes de France pour qu'elles puissent être mises à l'abri et être prises en charge par un autre service social. Et inversement, voilà. En quelques phrases, nos missions à Antigone.
D'accord. Est-ce qu'il y a des programmes nationaux en France qui existent, qui encadrent un peu la prise en charge des personnes en situation de prostitution ?
Après, il y a des lois, notamment l'article 316-1, qui justement offre un titre de séjour lorsque la personne dénonce le réseau de proxénètes, voilà, et c'est justement par le biais de cette obtention de titre de séjour que nous, derrière, on peut les faire accéder aux droits communs et leur permettre d'avoir des aides, de l'allocation, pour changer de vie, voilà, si elles le désirent, mais si elles dénoncent leur réseau, c'est qu'elles étaient en capacité à un moment de pouvoir dire stop et de changer de vie. C'est pas toujours le cas, hein, parce que certaines voudraient sortir du réseau, mais il existe une pression forte de la part des proxénètes, et forte, c'est un euphémisme, hein, elles risquent leur vie si elles dénoncent ou si elles s'enfuient. Et il y a des pressions aussi qui sont faites sur leur famille, rester à l'étranger, par exemple. Donc, quand bien même elles voudraient quitter un réseau, elles mettraient en danger leur famille restée au pays. Donc, c'est extrêmement difficile de pouvoir quitter un réseau. Il faut un certain nombre de circonstances favorables pour que ça puisse se faire. Voilà.
Quelles sont les situations des personnes en situation de prostitution à Nancy et quelles difficultés rencontrent-elles ?
Les situations des personnes en prostitution, c'est celle que je vous ai un petit peu mentionnée auparavant, hein, c'est la précarité, donc des difficultés familiales, sociales, financières, qui poussent par exemple des femmes françaises à devoir, pour boucler leur fin de mois, se prostituer. Et des personnes étrangères qui ont par exemple des enfants restés au pays, qui viennent de pays particulièrement défavorisés, et voilà, elles pensent trouver une solution financière à leurs problèmes en venant en France, en l'occurrence, pensant trouver un travail de type voilà serveuse par exemple, ou alors prostitution. Elles peuvent tout à fait venir en sachant très bien que voilà elles vont se retrouver dans la rue. Et les difficultés qu'elles rencontrent, c'est les difficultés de la femme qui est en situation de prostitution, c'est-à-dire qu'elle peut très bien être agressée par un client, elle peut très bien être agressée par un passant dans la rue, elle peut très bien être victime de maladie, en cas de rupture de préservatif. Voilà, on est sur ces difficultés là, donc nous on leur explique que ce n'est pas parce qu'elles sont prostituées qu'elles n'ont aucun droit, même sans papier, pour certaines d'entre elles, elles ont droit à la protection, donc on les invite à appeler la police s'il y a un souci, voilà.
Comment les personnes en situation de prostitution perçoivent-elles leur situation, justement ?
On a un peu tous les discours. Globalement, elles sont pas satisfaites de leur situation. Elles trouvent que c'est pas, que c'est un travail difficile, que c'est fatigant, qu'il fait froid, c'est la nuit, c'est dangereux, Et donc, elles espèrent passer à autre chose. Donc, ça passe par l'obtention de papiers, de documents administratifs pour être en situation régulière, pour pouvoir s'insérer professionnellement, par exemple, pour celles qui sont étrangères et sans papiers. Et pour certaines, c'est le seul moyen de régler leurs problèmes financiers. Familiale, au pays, le salaire minimum en Bulgarie c'est 150 euros, voilà. Donc il y a un taux de corruption absolument gigantesque et un taux de chômage identique. Donc à un moment, si elles se trouvent en grande précarité avec un, deux, trois enfants, le papa n'est pas là, ou au chômage, elle n'a pas de travail non plus, elle va ou prendre attache avec quelqu'un qui va organiser le voyage, ça arrive, qu'elle prenne elle-même des contacts pour faire le voyage vers la prostitution, ou alors prise au piège par un proxénète qui va lui promettre monts et merveilles et se retrouver coincé avec une dette à rembourser parce que le voyage, parce que les services, parce que la place sur le trottoir, parce que la protection, voilà. Donc c'est la conclusion.
Comment améliorer les conditions de travail de ces personnes ?
Les conditions de travail, je dirais que de prostitution dans la rue, plus de sécurité, c'est-à-dire que l'idéal ce serait que la police soit encore plus présente, que la police prenne plus de plaintes, qu'une prostituée qui vienne porter plainte pour viol soit entendue. Alors, heureusement, ça se passe pas trop mal avec les services de police, mais ça pourrait être encore mieux que ça. Voilà, ça passe déjà par là. C'est une plus grande sécurité pour elle vis-à-vis avec comme risque d'agression les passants, souvent éméchés et idiots, qui peuvent voilà leur taper dessus, les clients qui vont les voler, les frapper, ou alors les violer. On a vécu des choses terribles, hein, voilà, depuis 20 ans. Voilà, c'est déjà une première étape. Mmh. Voilà. Je pense aussi que du côté du social, il pourrait y avoir des choses en plus, c'est-à-dire plus de travailleurs sociaux, plus de services sociaux qui soient, je dirais, spécialisés sur la question. Voilà, parce que on est tout petit, hein, une toute petite équipe, et voilà, on pourrait avoir plus de monde encore avec nous sur ces questions-là.
Et nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que civils pour améliorer leurs conditions de travail? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les aider?
Je pense que ça passe par l'information, c'est-à-dire expliquer par exemple aux personnes qui fréquentent votre association, hein, la situation de ces personnes-là. Voilà, c'est-à-dire que on peut pas dire qu'elles sont là parce qu'elles aiment ça. Moi, j'en connais pas. On peut pas dire qu'elles sont responsables de tous les maux, de toutes les maladies. Voilà, il faut imaginer le nombre de clients qui demandent à avoir des rapports sexuels sans préservatif. C'est absolument terrifiant. Voilà. Donc les irresponsables, ce sont un certain nombre de clients. Voilà, par exemple, nous les filles, donc on insiste là-dessus, mais elles sont pas irresponsables. Voilà, elles font attention à elles, et ce sont vous. Et quand on les côtoie, effectivement, la nuit, elles sont peut-être vêtues d'une façon particulière, puisqu'elles ont besoin d'un dress code, pour parler anglais, voilà, qui permet de les distinguer. Mais dans la journée, ces femmes, ce sont des mères de famille, des sœurs, des filles, voilà, ce sont des femmes et des hommes comme tout le monde, avec les mêmes problèmes, si ce n'est qu'elles ont à un moment fait un choix plus ou moins délibéré de recourir à la prostitution pour régler un certain nombre de problèmes. Voilà. Donc je pense que ça passe par l'information, et parce que moi je le constate, mes collègues aussi, c'est que c'est absolument... j'ai parlé tout à l'heure de violence physique, notamment de la part des gens qui passent en voiture, ou des gens ou des piétons la nuit, mais faut imaginer le nombre d'insultes à la minute qu'elles reçoivent. Enfin, c'est terrifiant, quoi. C'est terrifiant, c'est humiliant, et pour avoir été témoin de ça, voilà, c'est vraiment... voilà, c'est vraiment idiot. Il y a une grande bêtise et méchanceté et cruauté vis-à-vis de ces filles-là qui souffrent aussi de ça, voilà, de se faire insulter toutes les nuits, hein. Il n'y a pas voilà, alors si c'est un coup de klaxon, ok, mais c'est des insultes. Elles se font balancer des canettes voilà sur la tête, enfin voilà. Pour l'anecdote, je sais pas si l'anecdote, le terme anecdote est très très bien choisi, mais pour vous dire à quel point ça peut aller loin, une fille un jour voilà s'est fait vider un extincteur sur la tête, voilà. Mais on est dans la pure humiliation, donc voilà le rôle, que ce soit peut-être des associations, peut-être même des responsables de la ville, de certaines communes. Effectivement, il y a la question des nuisances, mais elles sont aussi, mais tout pourrait être peut-être adouci et expliqué et amélioré avec une meilleure information, voilà, du grand public, je dirais.
Thank you. va rejoindre ta femme maintenant que t'as eu ton plaisir, que j'ai eu mon argent. Allez, je vais pas te retenir, je sors de ton camion, t'as eu ton aventure, remonte ton pantalon, rattache ta ceinture, puis boucle l'autre ceinture, puis sois prudent, petit con, et boucle-la. Bien sûr, rendu à la maison, va rejoindre ton monde maintenant que t'as maté ma poitrine en te contre-fichant de ma mauvaise mine. Va prendre ta douche, monsieur, va faire le beau, le propre. J'imagine que c'est mieux que de faire la salope. T'es en retard, mon vieux, va rejoindre ta femme, dépêche. Je suis convaincue que tu veux que ta salade soit fraîche, mon cul. Ça, tu t'en fous, allez, pourvu que tu puisses me fouiller tout partout et me gifler les cuisses, pourvu que j'obéisse pendant ces longues minutes, le temps que ça finisse, le temps. Rejoindre ta douce maintenant que t'as craché tes sous, va donc te mettre à genoux, jouer avec tes enfants. Moi, quand je me mets à genoux, je joue avec des grands, je m'amuse pas beaucoup, mais je fais bien semblant. Va donc rejoindre tes proches maintenant que t'es soulagé, que tu t'es vidé les poches et que tu me donnes congé. Je m'en vais tout de suite, je vais te laisser reprendre ton petit train-train. Fais vite, ta famille va t'attendre. Tu réalises ton plus récent fantasme, tu te déculpabilises en brandissant tes piastres, et tu retournes tranquille à ta petite vie rangée là-bas dans l'ouest de l'île, derrière tes peupliers. Quand tu pars en camping, à la pêche, à la truite, lorsque tu lances ta ligne, moi j'en renifle 18. Mais tu t'en fous, bien sûr, tu fais de mal à personne, même que l'argent que tu me donnes me fera une bonne piqûre. Et je serai bien comme toi lorsque tu t'assoiras devant le bon repas qu'elle te servira. Pardon si je te méprise, mais tu me le rends bien. Retourne à ton église et dis à Dieu que je m'en viens.
Vous écoutez le collectif Debout sur RCN 90.7 et aujourd'hui nous avons choisi de vous parler de la prostitution. Donc, vous venez d'entendre une chanson de Linda Lemay qui s'appelait « Va rejoindre ta femme ». Donc, nous souhaitions parler des clients, des prostituées, d'aborder quand même cette thématique. D'abord, mais qui sont les clients des prostituées ? Or, moi, j'ai trouvé des chiffres d'une étude du mouvement du Nid qui date de 2004, dans laquelle 12% des hommes déclaraient avoir été au moins une fois voir une prostituée. Et une autre étude est citée par Mona Chollet dans un article du Monde Diplomatique de septembre 2014 où elle note que un tiers seulement des clients de prostituées sont célibataires. Voilà donc déjà des premiers éléments.
Donc qui va voir les prostituées ? Bah, ce sont surtout des hommes hétérosexuels. J'ai envie, par rapport à la motivation de voir des prostituées, j'ai envie de dire « il n'y a pas le monsieur client ». des clients, ça regroupe toutes les couches sociales, toutes les situations aussi, mariées, pas mariées, etc. Alors, il y a certains hommes qui sont attirés par le monde de la prostitution, attirés par l'interdit, que c'est pas compliqué, les rapports sexuels, qu'il n'y a pas la drague, qu'il n'y a pas rejet de la femme, qu'ils peuvent vivre des fantasmes aussi, voilà. Et c'est pas aussi les clients, voilà, c'est pas forcément toujours qu'ils se disent « Ah, aujourd'hui, je vais avoir une prostituée ». C'est plutôt aussi que des fois, ils ont amené par hasard, par exemple par des bars d'hôtesses ou par des sites rencontres ou parce qu'il y a une prostituée qui les parle dans la rue, voilà. Après aussi, comment les hommes peuvent le vivre. Alors, par exemple, si les hommes vont aller le voir seuls, ça peut être parce qu'ils sont dans une crise de vie, pas de compagne, etc. Mais ça peut être aussi des hommes mariés qui y a aussi une crise de leur couple et qui s'ennuient sexuellement et dans les couples, etc., si ça ne va pas trop. Après, il y a aussi une phénomène que je trouve important de souligner, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont voir des prostituées aussi en groupe. Et ça, c'est bien quelque chose qui se fait dans les associations masculines, de la politique, de la militaire, alors surtout dans les lieux très, très masculins. Et si les hommes vont en groupe voir les prostituées, c'est aussi les hommes se donnent l'un à l'autre la permission de les faire, en fait. C'est la légitimation. L'autre, il le fait, alors moi, je le fais. Et voilà. Et pourquoi ils le font aussi, j'ai envie de dire, parce que nous vivons dans une société qui fait que c'est possible. La prostitution, c'est aussi un lien avec le pouvoir. Ce n'est pas parce que les hommes ont besoin de décharger leur désir sexuel, c'est parce que c'est possible, c'est une question des pouvoirs qu'il faut inclure là-dedans. Ça joue aussi dans la motivation de voir des prostituées.
Voilà, c'est important. Ce que souligne là Katia, c'est bien une fausse croyance, la croyance selon laquelle les hommes auraient plus de besoins sexuels que les femmes et ne pourraient pas s'empêcher d'avoir des relations sexuelles, d'où le fait qu'ils soient obligés d'aller payer pour avoir des relations sexuelles ou qu'ils violent les femmes. Voilà, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Les hommes comme les femmes ont les mêmes envies sexuelles. Après, on vit dans une société patriarcale. C'est donc le groupe homme qui a le pouvoir, comme le soulignait Katia, c'est vraiment une question de pouvoir et pas de besoin physique. Voilà, donc ça nous fait une belle transition pour ce qu'on souhaitait aborder ensuite, c'est-à-dire que disent les féministes par rapport à la prostitution. Donc on va commencer peut-être par un rapide point sur les différents points de vue féministes qu'on retrouve, les principaux points de vue.
Alors déjà, de manière un petit peu générale, ce qui est critiqué au niveau du féminisme par rapport à la prostitution, c'est que si c'est possible la prostitution, c'est parce qu'on vit dans un système patriarcal où le capitalisme rend possible en fait cet achat marchand, parce que tout est marchandisé, tout est transformé, tout est possible, tout est achetable. Et donc... ce qui est questionné au niveau du féminisme, c'est la construction de la sexualité, du genre, des rapports sociaux de sexe, et notamment de la domination masculine, parce qu'il faut dire que la prostitution est quand même plus le fait d'homme à femme ou d'homme à homme. Donc, c'est ça qui rend possible. Et donc, en fait, on va aborder les deux points de vue qui sont en général retrouvés au niveau du féminisme, c'est le réglementarisme et l'abolitionnisme. Donc le réglementarisme, en fait, est né en 1830, et c'est un médecin à la base qui a promu cette idée-là. Et donc, en fait, c'est le but de rendre cette activité licite. Ça peut faire quand même l'objet d'une répression morale au niveau de la société, mais le but, c'est de dire qu'en vertu des libres dispositions de son corps et du principe de la libre entreprise, c'est le permettre que cette activité soit une activité professionnelle intégrée à la vie sociale et économique. Mais il faut quand même préciser que dans cette notion-là, le proxénétisme, tout ce qui est forme de coercition et d'exploitation sexuelle, est combattu. Le but, c'est juste d'avoir une reconnaissance juridique et plus de droits sociaux. L'autre point de vue féministe, c'est l'abolitionnisme, qui est à la base pour toute suppression de toute réglementation concernant la prostitution, pour que d'elle-même la prostitution disparaissent, mais à l'heure actuelle, on trouve plutôt des courants néo-abolitionnistes qui, elles, veulent quand même des droits pour les prostituées et qui parlent du fait que, en fait, ce qui est important, c'est une égalité entre les hommes et les femmes. Elles sont contre la marchandisation du corps humain pour une dignité, et donc le but, c'est de pénaliser le client pour arriver à cela. Voilà, en gros.
Oui, alors moi je vais un petit peu rebondir sur ce que dit Angélique sur l'abolitionnisme. J'ai envie de vous dire, de nous dire, rêvons un peu, parce que tout ça c'est trop dur. On est dans une société qui exploite le corps des autres, parce que c'est comme ça. Les gens ont besoin d'argent pour vivre, pour manger, pour satisfaire leurs besoins les plus élémentaires. Et ça, c'est une société complètement injuste et à laquelle, en tout cas, moi, je ne souscris absolument pas. Et c'est tout à fait lié à l'exploitation de l'homme par l'homme. On y va, on dit carrément les choses. Vous noterez la référence qui est la mienne. Et que c'est insupportable qu'il y ait des gens qui dominent les autres et en particulier la double oppression des femmes qui sont victimes et du système économique et du système patriarcal. Alors rêvons un peu, imaginons que tout ça n'existe plus, qu'il y a le respect des uns et des autres, qu'on est dans une société digne, qui respecte tous les êtres humains. Le corps est vraiment une entité personnelle, une enveloppe corporelle qui est une identité profonde à laquelle personne ne peut avoir accès sans un consentement total. Alors moi, j'englobe le corps en général, les dons d'organes, etc. Et quand on dit don, ça veut dire donner. Et on ne peut pas avoir commerce sexuel alors qu'on peut donner bien d'autres choses de soi à un autre qui vous en donnera autant. Et j'ai envie de placer peut-être une notion ringarde, mais est l'amour dans tout ça. Voilà. Donc, je vous laisse à toutes ces réflexions qui m'animent assez régulièrement.
Le problème, c'est que si on interdit complètement aux prostituées d'exercer leur activité, ça ne va pas supprimer leurs problèmes, et donc ça va au contraire les enfoncer. Et donc c'est pour ça que l'opinion inverse, c'est justement de les légaliser pour qu'elles aient plus de droits, pour qu'elles soient plus protégées, qu'elle soit plus écoutée par les...
Est-ce que je peux t'interrompre, Alison, excuse-moi, mais il est vrai que j'ai oublié d'ajouter que le droit des prostituées à exister dignement est très important et qu'il faut absolument le prendre en compte, et que moi, je n'ai pas voulu l'éradiquer du tout. Hein. Je me situe dans une perspective très lointaine qui imagine que tout s'est réglé. Voilà.
Ce qui est peut-être intéressant, c'est de citer le point de vue du STRAS, qui est le syndicat du travail sexuel, qui porte bien justement ce dont parlait Angélique, ce souhait de que ce soit un métier reconnu, la prostitution.
Et donc je vais faire une citation de Virginie Despentes, qui je trouve est très parlante. C'est le contrôle exercé sur les femmes qui est violent, cette faculté de décider à leur place de ce qui est digne ou de ce qui ne l'est pas. Donc en fait, le STRAS, il lutte contre le proxénétisme, l'esclavage, le trafic d'êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants en étant un lieu de réflexion et d'élaboration d'une prostitution autogérée et choisie. Donc leurs exigences, elles sont contre les prostitutions de loi sur la pénalisation des clients, parce qu'elles estiment que ça va à l'encontre aussi des prostituées. La dépénalisation du racolage, parce que c'est dire que les prostituées sont coupables. La régularisation des sans-papiers également, le droit de changement d'état civil des transsexuels, la lutte réelle sur la précarité et l'exploitation, donc pour qu'il y ait une réelle démarche de non-précarité, de ne pas que les prostituées soient précarisées, et une réelle reconnaissance de leurs droits, donc pour les personnes qui sont volontaires. Et donc voilà, on est les féministes sont toutes d'accord pour dire que le proxénétisme doit être pénalisé et ouais. combattu.
C'est ce que disait aussi Katia en citant l'exemple de l'Allemagne et de la Suède tout à l'heure. Et ce qui est important aussi dans les positions féministes, c'est qu'il y a quand même la majorité qui souligne bien que la prostitution féminine, comme elle existe aujourd'hui avec une clientèle masculine, c'est bien quelque chose qui est lié au fait qu'on vit dans une société patriarcale, c'est-à-dire où c'est le groupe homme qui domine en termes de pouvoir. Donc, une dernière pause musicale avant la fin de cette émission.
En direct, l'art de transmission, l'organisation du contrôle est une performance de haut niveau. Score 3-0. Ulysse a gagné, bâton Zorro et King Size est vainqueur. À droite de votre écran, impossible à Marie de remonter un tir contré de Gambetta, leader incontesté qui exploitera un tir de Tintin et les principaux dirigeants révolutionnaires se sont imposés en vainqueur de cette promotion nationale.
Merci donc Brigitte Fontaine, sa chanson Patriarcat qu'on a raccourci de deux tiers en fait. Hein. L'émission se termine, vous retrouverez Debout le 3 septembre à 19h30 au CCAN 69 rue Mont-Désert à Nancy pour sa réunion de rentrée. Venez nombreux et nombreuses. Vous nous retrouverez le 24 septembre à 19h30 toujours au CCAN pour la projection du film Wadja, suivi d'un moment d'échange autour de ce film. Nous vous disons donc à très bientôt, au mois prochain même. Au revoir.
Merci Vincent Corrier, merci à tous. Au revoir.
Au revoir.
Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Le monde, femmes esclaves, déprisons nos entraves. Tabou, tabou. Ensemble révoltons-nous, levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves.